I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Raffut, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro et je retrouve notre excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, merci encore de m'accueillir dans Poulain Raffut. Vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, Deezer, Spotify, Acast, Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. Ça flattera son ego et ça remplira son frigo. De cette façon, vous recevrez également chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse présenter notre invité du jour, un invité qui a touché du bois et qui n'a pas sa langue dans sa poche.
Oui Arnaud, il y a des mecs comme ça qui sont multicasquettes, qui ont de multiples facettes et qui forcent le respect par leur aura. Formé à l'USUCL, passé par Clermont, puis La Rochelle, puis Montpellier avant de poser ses valises à Castres, club avec lequel il vient de re-signer, notre invité, au-delà du très bon joueur qu'il est avant tout un globetrotteur, à faire pâlir Lionel Boxis qui vient de re-signer dans son 17e club, Béziers, en 15 ans de carrière. Thomas Combezou, au-delà d'être un très bon chasseur, un véritable sniper, faisant passer des vieux roublards de journalistes pour des jeunes stagiaires à moitié dépuzelés en un seul regard, bien fixe, qui le transperce, et cette fameuse phrase devenue culte, ça me fait pas rigoler. Avant de quitter la scène, de crime laissant comme un con le journaliste et son micro. Aux dernières nouvelles, ce pauvre bougre a refilé sa carte de presse le lendemain de l'interview et est devenu éleveur de chenilles dans la Creuse. Thomas, c'est aussi un comédien de grande classe, et j'en veux pour preuve ce chef-d'œuvre où il partage, que dis-je, où il crève l'écran avec son compère Loïc Jacquet. Et je sais reconnaître un bon acteur parce que moi-même j'ai joué avec Isabelle Adjani. Bon, pour tout vous avouer, j'avais le rôle d'un apprenti bourreau muet en 1100 en Écosse. Le jeune bourreau titulaire s'était fait clapper par les loups et je devais le remplacer au pied levé, mais muet. Donc j'ai pu pendant 2 heures chaque soir analyser le jeu de cette magnifique Isabelle. J'ai épluché la vidéo du duo castré, eh bien ils n'ont rien à envier aux meilleurs. Les seuls qui, à mon avis, peuvent aujourd'hui les dépasser en termes d'acting sont les nominés suivants. Rory Cocotte pour son œuvre globale et plus récemment, Jean-Marc Doussin qui a récupéré l'Oscar de la plus belle simulation ce week-end. Je vous laisse regarder les vidéos que vous pourrez à mon avis retrouver dans les réseaux sociaux dans très peu de temps. Allez, plus sérieusement, il nous en faut des joueurs de caractère, des papas qui connaissent le métier. Ça fait 15 ans qu'il est dans le bordel, Thomas Combezou. Passé par presque toutes les sélections en France, il est champion de France junior avec la SM, champion de Pro D2 avec La Rochelle, il est champion de France avec Castres. Et au-delà du palmarès, il est devenu une pièce maîtresse de l'effectif du CO, pardon, depuis son arrivée en 2014 avec les Cocottes, les Odapilleta, les Jacquet, les Gelon, les Babillot, les Battle, les Palis et autres du Mora. Bref, moi personnellement, il me régale et je suis un peu fan. Et sur et en dehors du terrain, vous l'aurez bien compris. Et il me rappelle que voilà, les anciens de 34 ans, ça existe encore bel et bien. Et dans les clubs, il en faut. Ils sont essentiels pour garder le cap dans les moments compliqués. Comme cette saison pour le CO qui est 8e du top 14 avant d'affronter Toulouse dans un derby qui s'annonce brûlant. Vont-ils nous refaire l'exploit de 2018 ? Personnellement, comme il y a 3 ans, je remettrai bien un petit billet sur le club du Tarn cette année. Et je remercie Thomas d'être parmi nous dans Poulain Raffut. Salut Thomas.
Salut, salut. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est gentil. Ouais.
Ravi.
Belle présentation.
Content que ça te plaise. Voilà. Je savais que tu vois que quand je reçois un jeune de 20 ans, je lui dis t'inquiète pas, ça va bien se passer, pas obligé de se justifier sur l'humour. Je savais que ça allait passer avec toi.
Donc, non, c'est top.
Écoute, d'abord, dans un premier temps, on a appris il y a peu de temps que tu avais prolongé pour 2 ans avec Castres. Je parlais justement de cette fameuse vidéo et cette act team absolument phénoménale. La vidéo était charmée. tu as aujourd'hui 34 ans, pardon, et je voulais savoir ce qui te pousse à continuer encore à jouer aujourd'hui, à t'entraîner, à partir tous les week-ends loin de chez toi et puis de continuer avec le Castres Olympique aujourd'hui.
Bah, franchement, écoute, je vais te le dire, c'est le club est top, quoi. On a un super club, il y a un super état d'esprit, on a une belle équipe, pas mal de jeunes sont arrivés cette année. Par exemple, je pense au petit Flo Van Verberg, Rino Petersen et bien d'autres. Donc, ça fait plaisir d'avoir une équipe qui commence à se modifier et on voit que les performances commencent à être positives. Donc, ça donne envie de continuer et je crois qu'une bonne partie de l'effectif a eu cette envie. Et donc, c'est plutôt cool, quoi.
Thomas, tu fais partie de ceux pourtant qui ont déjà bien préparé leur avenir. Tu sais déjà de quoi il sera fait, hein, ton avenir, puisque tu as réussi le concours de gardien de la paix. raconte-nous comment t'es venu cette idée. Raconte-nous comment. C'est quand même pas très courant. Je suis pas convaincu que des rugbyman professionnels qui deviennent gardiens de la paix, il y en a beaucoup. On connaît et on le salue David Arrieta, mais qui a joué à une époque où le rugby n'était pas professionnel. Raconte-nous comment t'es venu cette idée.
Alors, moi, dire que je vais être gardien de la paix, c'est un grand mot encore actuellement, parce que j'ai des difficultés à repousser mon entrée en scolarité, parce que la police nationale, on a 3 ans, voire un petit peu plus, après dérogation pour intégrer l'école de police. Donc là, je suis en pourparlers pour essayer de le repousser. Mais après, j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté pour avoir une reconversion qui me plaise. Donc, j'ai 3 possibilités. Ça veut dire que là, je vais passer les concours d'entraîneur. J'ai le concours de police que j'essaye de repousser de mon côté. Et aussi, j'ai la possibilité de revenir sur l'exploitation familiale, donc de vache allaitante en Limousine, en Haute-Corrèze, sur la commune de la Mazière-Base. Je veux avoir, à la fin de ma carrière, la possibilité d'intégrer un métier qui me plaît, parce qu'après, il reste une bonne vingtaine, trentaine d'années à faire dans le circuit.
Mais qu'est-ce qui te séduisait, excuse-moi, Raph, avant que tu t'enchaînes, qu'est-ce qui te séduisait dans cette profession? Raconte-nous un peu.
Eh bien, faut dire que moi, mon père était policier déjà. Mon père était policier. Et après avoir discuté aussi avec un copain de Castres avec qui je chasse, parce que aussi je suis passionné de chasse, qui est policier, il me disait franchement, actuellement, c'est vraiment un top métier, tu fais de tout, t'es dans la rue, tu fais tu es au proche de la population, mais tout aussi en étant aussi dans les bureaux, tu alternes un peu de tout, quoi. C'est-à-dire que tu vois de tout, tu rencontres des gens, donc en fait ça n'arrête pas, quoi. Donc c'est ça qui me plaisait dans le métier de policier, et surtout dans le poste de cours, pour être là, pour qu'il y ait un peu d'adrénaline aussi sur certaines interventions, comme d'autres interventions qui sont beaucoup plus calmes. Donc voilà, j'avais besoin de trouver un truc qui me ressemble.
Mais tu parlais d'un moment de chasse où non pas la décision a été prise, parce qu'elle n'est pas prise, tu jongles sur 3 postes différents et voilà, en fait, le meilleur, exactement, bien sûr, pour plus tard. Mais c'est pas avec Monsieur Dumourand, en fait, où il n'y a pas eu une discussion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement? Tu parlais d'un ami de chasse, mais c'est peut-être pas lui, mais c'était pas à ce moment-là que vous avez parlé de ça, ou je sais pas?
Non, 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 c'est pas avec Juju. Juju, par contre, lui, il a fait le concours de pompier. On a pris deux circuits complètement différents. Mais après, la chasse, ouais, j'y vais avec Julien. Mais non, non, c'est pas avec Juju.
D'accord. Le, je pense que c'est important d'en parler juste 2 secondes, justement, sur la reconversion. Moi, c'est un sujet qui nous tient à cœur, d'ailleurs, dans Poulain Rafute, parce qu'on ne se rend pas compte, justement, de l'arrêt de la carrière. Et je pense que c'est important, parce que beaucoup de jeunes nous écoutent justement dans cette émission, de parler de l'après-carrière. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu appréhendes? Moi, tu viens de re-signer 2 ans à 34 ans, donc moi, je parle de petite mort pour l'avoir vécu, parce que qu'est-ce qu'on fait de son corps? Qu'est-ce qu'on fait de ces 20 années où on a passé à mentalement à répondre à des prérogatives, se motiver aussi à essayer de prouver, bon là, il n'y a pas de public, mais entre le public, l'adrénaline, les entraîneurs, puis ce côté papa que tu as aujourd'hui, c'est vrai que je pense qu'il est important, justement, que tu peux nous donner 2 mots un petit peu sur cet après. Est-ce que toi, tu l'appréhendes et comment tu la prépares, justement?
Je crois qu'aujourd'hui, tous les joueurs de rugby professionnel l'appréhendent, parce que on n'a pas réellement de vision sur notre avenir, sur l'après-rugby. Moi, je sais que j'ai passé le concours de police parce que j'avais besoin de me connaître, d'en apprendre beaucoup plus sur le métier. Même toutes les questions qu'on m'avait posées le jour du concours, mais je les regardais, je disais, mais je suis pas policier encore, je peux pas vous répondre sur ce que je ferai, sur ce que je vais faire. C'est parce que quand on passe le concours de police, par exemple, on a un entretien avec un directeur de la police. Il y a 5 personnes, un policier, et en fait, toutes ces questions, elles sont sur comment vous ferez, vous connaissez ci, vous connaissez là. J'ai regardé, j'ai fait non, je découvre votre métier. Je veux dire, même si j'ai 30 ans, au moment où je l'avais passé, je dis, je vais l'apprendre. C'est un métier que je vais apprendre. Alors, ce qui est bien dans la police, moi, ce que j'appréciais, c'est qu'en fait, après, à la sortie du rugby, par exemple, c'est qu'on a 1 an d'école qui te forme à intégrer la police nationale pour connaître le métier. Moi, ce que je trouve difficile dans le rugby aujourd'hui et la suite d'une carrière, c'est, moi, j'ai fait un BTS NRC, par exemple. Mais écoutez, si on me mettait aujourd'hui à vendre tout et n'importe quoi, je le regarde, je sais pas faire. Moi, mon BTS, je ne m'en rappelle même plus. Ça fait 15 ans ou 10 ans que j'ai fait ma formation. C'était à la fin de La Rochelle. Je ne m'en rappelle même plus. Je veux dire, aujourd'hui, tous les diplômes que j'ai pu avoir avant. Donc, en fait, c'est ça qui est désagréable. C'est qu'on a l'impression d'être capable de faire des choses, mais Le problème, c'est que tant qu'on ne les a pas vécus, on ne le sait pas, en fait. Et c'est ça la difficulté d'un joueur professionnel sur sa reconversion. Aujourd'hui.
C'est très compliqué parce que on demande beaucoup justement aux jeunes dans les centres de formation, 14, 15, 16 ans. Après, on te demande d'être sur le double projet parce que tu as le rêve en fait de penser à un métier qui est un métier à risque, on peut le dire, de par les blessures, de par l'arrêt prématuré d'une carrière. De l'autre, il faut que tu penses aussi à ton après-carrière alors qu'elle n'a pas encore commencé, mais à un métier aussi que tu voudrais faire. Alors que quand tu as 17, 18 ans, tu rêves de faire ce métier-là justement en voyant des mecs comme toi, des mecs sûrement comme moi à l'époque, au siècle dernier, non je rigole, mais toi, de pouvoir se référer en fait à des... tu as envie de participer parce que le gâteau est bon, parce que jouer devant 10 000 personnes, c'est génial, mais c'est hyper délicat, et surtout quand ça s'arrête, pour ma part, à 25 ans, mais même à 35 ans, c'est, comme tu le dis, j'ai eu un diplôme, enfin pour toi, tu as eu un diplôme il y a 10, 15 ans, aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais, comment je suis aussi conseillé sur l'après, qui m'accompagne aussi dans cet accompagnement professionnel et psychologique d'après-carrière pour savoir quelles sont mes compétences, et c'est vrai que oui. C'est à la fois une force de caractère, mais est-ce que... Alors, une autre question, est-ce que tu crois que la responsabilité, elle est du club, de la ligue, de la fédération ou du joueur qui doit être responsable de son après-carrière? Est-ce qu'il n'y a pas un peu tout le monde à mettre dans l'eau?
Moi, je crois qu'il y a tout le monde. Ouais. Il faut que tout le monde s'investisse parce qu'après, il n'y a pas que le centre de formation, il n'y a pas que la ligue, il y a aussi les joueurs. Moi, j'ai des copains, je ne vais pas en citer spécialement, je ne vais pas citer de nom parce que ça serait quand même... je n'ai pas envie après d'être en conflit pour des bêtises comme ça. Mais on discutait, je lui disais, mais forme-toi, fais quelque chose, reste pas sans rien. Le problème, c'est que même si tu as un tout petit truc, une simple formation peut t'ouvrir une opportunité que même lui ne pourrait pas se rendre compte actuellement. Le problème, c'est que s'il ne fait rien, tu ne sais rien faire. Je veux dire, à part bah, peut-être bah, sur le tas, quoi. Mais le tas, c'est qu'il faut qu'on t'embauche avant. Et quand on t'embauche, il faut d'abord préparer l'entretien d'embauche. Ce n'est pas parce que tu as un statut de joueur professionnel, il y a des personnes qui ne suivent pas le rugby. Et ils vont te regarder, ils vont dire « oui, mais moi, votre rugby, je m'en fous ». Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui. Alors moi, j'ai la chance que mes parents sont agriculteurs, j'ai la chance qu'on a une belle exploitation et qu'aujourd'hui, mon père prendra la retraite. Donc, c'est une opportunité de reconversion. Mais après, comme je dis, c'est qu'à la fin de ma carrière, dans 2 ans, je veux avoir toutes les opportunités de mon côté, ça veut dire… Diplôme d'entraîneur avec possibilité d'entraîner, bon, voilà, chacun son truc, hein. Et l'exploitation ainsi que la police. Si j'ai tout ça, à ce moment-là, je choisirai et j'embrayerai rapidement sur ma reconversion.
Et pour conclure, Arnaud, je te passe la parole après, mais ça permet aussi de garder un pied dans la réalité parce que le rugby professionnel n'est pas la réalité, je dirais, du commun des mortels. Je pèse mes mots parce que c'est un métier qui est extraordinaire. Aussi, tu l'as dit, le regard aussi des gens, voilà, mais c'est un microcosme le rugby. Le problème, c'est quand tu joues devant 10 000 personnes, t'as l'impression que la terre entière te connaît. Sauf que quand t'es recraché par le système ou quand le système s'arrête, voilà, il faut repartir dans une vie normale, un salaire qui est. Tu passes par une phase de chômage aussi, donc il y a tout ça aussi à anticiper.
Mais on peut dire franchement que la réalité, je pense, pour beaucoup de joueurs, pendant le confinement, a certainement dû faire du bien à beaucoup de monde. Ça veut dire que tu lèves la tête du guidon, parce que moi, ça fait 15 ans, ça fait 15 ans, on a 4 semaines de vacances l'été, et c'est reparti, et c'est un cercle vicieux, et hop, l'année d'après, on a 4 semaines, et on recommence. Et le problème, c'est qu'après, on arrive au rugby, on a notre linge plié, on s'habille, on fait notre séance, on nous dit, tu fais ça, tu rentres chez toi, hop, le lendemain, tu refais ça, tu rentres chez toi. Sauf que là, quand il y a eu le confinement, le premier confinement, je parle, où on a eu 2 mois et demi, ben, au bout d'une semaine, tu dis, qu'est-ce que je fais? Au bout de 2 semaines, tu lèves la tête. Au bout de 3 semaines, tu dis, bon, ben allez, je vais faire quelque chose aujourd'hui. Et 4, et tu continues. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, ben écoute, franchement, il y a autre chose que le rugby. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. C'est que bon, moi, j'ai eu la chance d'être sur l'exploitation familiale durant ce confinement. Et ben, et hop, allez, c'est parti, dans le tracteur. Et allez, et hop, et tu files un coup de main à tout le monde. Et tu bosses. Et en fait, tu te rends compte ben, que c'est cool, quoi, aussi d'être autre chose qu'un joueur de rugby.
Alors, imaginons, Thomas, on se projette. On est dans 10 ans. T'es gardien de la paix, t'es policier, t'es officier de police, t'es en uniforme. Comment vont te regarder les gens, toi qui as posé quand même à plus de 10 reprises dans le calendrier des dieux du stade en poil, et dont le dernier en Dionysos?
Ouais, je pense que tout le monde aura oublié. À moins que sur une intervention, j'arrive dans des toilettes et qu'il y a le calendrier. Là, à ce moment-là, je pourrais dire, tu vois, c'est moi qui l'ai fait. Tu vois, j'y étais, mais c'était il y a 10 ans.
Non, ouais. Raconte-nous, plus sérieusement, raconte-nous un peu cette expérience avec Max sur ce calendrier.
Ouais, bah écoute, moi, Max, j'ai passé des bons moments au moment où il était encore président du Stade français. C'est vrai que c'est quelqu'un de fort agréable. C'est quelqu'un ben, voilà, qui a créé ce calendrier à cette époque. C'est quelqu'un ben, voilà, qui était fier de ce qu'il faisait, qui était heureux de recevoir ben, beaucoup de joueurs autres que des joueurs du Stade français. Donc, ben, voilà, il créait un lien un peu avec tout le monde. Moi, je me rappelle à un moment, on était en discussion pour que je signe au Stade français. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui m'avait chambré parce que j'avais fait patienter Max un mois et que je n'avais pas signé. Un de la com qui m'avait chambré. Il est là tout de suite, Max, il dit non, pas ici, on n'en parle pas, ça regarde pas le moment du calendrier. Donc, et je l'avais trouvé c'est très très pudique et c'était vraiment super super sympa de sa part. Donc c'était vraiment quelqu'un d'agréable ben, quand j'ai eu la chance de le rencontrer vraiment.
À quel moment tu as failli signer au stade? C'était quelle période? Sortie de La Rochelle ou
Et
juste
sorti de
avant?
La
Ouais.
Rochelle, ouais, sorti de La Rochelle quand le Stade français était un peu en difficulté
Ouais.
financière. Et ben, en fait, je m'engage à Montpellier avec Fabien Galthié. Voilà.
C'est bien passé avec Fabien, ça a été?
Ah, ben, après, c'est Fabien.
Voilà.
Tout le monde le connaît. Non, c'est un très, très, très bon manager au niveau rugby. Après, humainement, c'est beaucoup plus difficile. Mais après, il faut être fort mentalement. Et voilà, après, c'est comme ça. Après, il tire le maximum de ses joueurs. Mais après, c'est difficile. Hein. Ben, voilà, c'est le haut niveau. Ça laisse place aux émotions.
Et puis je pense que Fabien, en plus, a cette exigence qu'il a lui-même et qu'il a envie de provoquer aussi sur ses joueurs. Voilà, je pense, a pris beaucoup. D'ailleurs, on voit aussi les résultats avec l'équipe de France. J'aimerais juste revenir avec toi.
C'est
On a dit que tu es quelqu'un de. Je l'ai dit d'ailleurs dans le portrait que tu es quelqu'un de très franc, voilà, sans trop de filtre. J'en veux pour preuve la fois où tu t'en es pris ouvertement, justement, à Julien Castagnette, qui était arbitre de la rencontre face à l'UBB en novembre dernier. Tu avais alors dit au micro de nos confrères de Canal, on s'est fait entuber tout le match, il faut le savoir quand même. Aujourd'hui, en première, je te cite, hein, en première mi-temps, on a arbitré Rory Cocotte, je ne sais pas pourquoi, c'est nul, c'est de l'anti-rugby et ça me gonfle. Tous les week-ends, c'est pareil. Donc, des propos qui t'ont valu une amende de 3 000 euros et un blâme. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui tes propos? Est-ce que tu te dis pas que parfois il est préférable finalement de ne rien dire? Qu'est-ce qui est le plus fort? Qu'est-ce qui est plus fort que toi? Moi, j'ai pas du tout à montrer du doigt. Je pense que c'est parfois les choses. Enfin, t'es à la 80e minute aussi, tu sors d'un match. Juste avant que tu répondes, moi j'ai cette anecdote où on m'interviewe en me disant t'es Raffoulin, t'es élu homme du match, tu rêvais d'être rugbyman et de jouer une demi-finale à Vimnoldask et d'être aux portes de l'équipe de France. Et j'avais qu'une envie, c'était de répondre que j'enlevais des betteraves montées dans les champs 2 mois auparavant pour m'acheter un casque de mobylette et de jouer avec ces mecs-là. Et j'ai répondu ce truc très classique que j'avais déjà sorti il y a quelques semaines. On a eu 2 bonnes mêlées, on a pris l'ascendant en deuxième mi-temps, on se mettra en travail pour la semaine prochaine. Avec l'accent du sud, alors je suis picard, ça n'a pas de sens, mais tu vois l'impact qu'on peut avoir. En fait, enfin, l'impact que peuvent avoir les médias et puis ce caractère sanguin aussi que tu as, ce franc-parler, est-ce que tu le regrettes? Est-ce que ça fait partie de toi? Et oui, après, c'est assumé. Comment tu te décrirais à ce niveau-là?
En fait, moi, je regrette surtout l'ampleur que ça a pu prendre parce que c'est un match de rugby et que c'est une passion pour moi, malgré que s'il y ait des enjeux financiers et que, bien sûr, que ça me permet de gagner ma vie, comme ça permet de gagner à l'arbitre sa vie, comme ça permet à beaucoup de personnes d'en vivre. Mais après, je trouvais Rory était tout le temps arbitré injustement. C'est-à-dire que malgré son tempérament, malgré la provocation qu'il peut amener, des fois, il faut savoir juste dire, écoute, stop, c'est fini. Ou je te le sors, je te mets un carton jaune dès la deuxième minute, tu le sors. Parce que le problème, c'est que nous, on est à 15 mètres. On voit que c'est toujours par rapport à un joueur, mais juste. Mais alors, on trouvait vraiment que c'était. Moi, j'ai senti une injustice régulière. Et c'était régulier, trop, trop régulier. Et derrière ça, ben, c'était vraiment. Moi, cette injustice, ben, ça me bouffait, quoi. Ça bouffait d'autres joueurs. Sauf qu'il y en a, ben, ils disent rien, et petit à petit, ben, ça s'instaure, c'est régulier, c'est tout le temps la même chose. Alors que là, on a foutu un coup de pied dans la fourmilière à tout le monde, on a dit ouvertement, il faut arrêter, c'est bon, stop, c'est bon, il y a des limites. Et bizarrement, il faut dire qu'aujourd'hui, ben, tout le monde s'est expliqué, que ce soit le club, le corps arbitral, les directions du corps arbitral, Rory, moi. Je suis passé devant la commission, j'ai payé ma dette, tout le monde s'est remis dans les rangs, et bizarrement, ben, l'arbitrage est différent, les explications aussi auprès du joueur et des joueurs sont différentes, parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour un arbitre de dire, écoute, tu as fait ça, tu le refais pas, ça se passera bien, que de dire, ne me parlez pas, reculez, mettez-vous à 10, c'est fini, taisez-vous, taisez-vous, je ne veux plus vous entendre. Non. tu lui parles, tu lui dis, écoute, tais-toi, stop, voilà, j'arbitre, ça va bien se passer, tranquille. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et ça passe beaucoup mieux que de... En fait, à partir du moment où tu es en opposition à une équipe ou à un joueur, et bien, tout de suite, tu as cette frustration qui monte et l'ensemble du groupe monte en énervement. Et je trouve que c'est ça qui amène toujours une dans la balance.
Et ça se ressent sur la performance à l'instant T. Enfin, ça se ressent sur la performance et le stress.
Ça se ressent sur la performance de l'équipe et ça se ressent sur le long terme. Petit à petit, il y a eu ce Rory. Attendez, au bout d'un moment, stop, Rory, il n'y a pas que Rory sur le terrain. On est 14 autres joueurs. Si vous sanctionnez toujours que Rory par son attitude, eh ben nous, on paye les conséquences aussi, parce que moi, je m'entraîne le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, pour être performant le week-end. Et en fait, je trouve que cette performance, elle est bouffée par une situation qui n'était pas réglée entre le corps arbitral, le club et l'ensemble de l'équipe.
Mais justement, Thomas, une question un peu, comment on va dire, allez, pas piège, mais est-ce que réellement, aujourd'hui, Rory Cocotte est aussi pénible que sa réputation le laisse croire?
À un moment, il était pénible, hein, Rory, mais même là, il a été pénible. La dernière fois, quand il a chambré contre La Rochelle, j'avais envie de le frapper. Hein. Mais je lui ai dit, hein, on se l'est dit, tout ça. Je lui ai dit, Rory, stop, tu sais très bien qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de chambrer. Chambre pas, parce que le problème, c'est que tu nous pénalises aussi. Mais aujourd'hui, l'arbitre, il l'a mis à 10. Et à la fin du match, moi, clairement, je lui ai dit, on va le régler, on va lui parler, c'est tout. Voilà. Et Rory est un grand joueur. Et c'est pour ça qu'il écoute. Aujourd'hui, il était dans l'œil du cyclone. Il sait que sa réputation, il en paye un peu aujourd'hui les conséquences suite à ce qui se passait avant. Mais avant, il n'était pas sanctionné parce que le chambrage, ce n'était pas spécialement sanctionné avant. Aujourd'hui, c'est sanctionné, mais il faut que tout le monde se mette au diapason, dont Rory. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, à lui aussi d'avancer, d'être beaucoup plus discipliné.
Alors, tu parlais de réputation, justement. Comment vous vivez-vous les castrés de l'intérieur, le fait d'être parfois raillé sur votre façon de jouer? Je me souviens que votre ancien manager, Urios, aussi était un petit peu énervé par ses propos, justement, le jeu des castrés. Mais force est de constater que ça a marché, parce que vous avez été champion, d'ailleurs, cette année-là. Donc, on a l'impression que vous nourrissez aussi de cette image pour vous motiver avant les rencontres. Qu'est-ce que tu en penses? Je me trompe, il y a un jeu à la castrèse, quoi. Voilà,
voilà. C'est notre identité, on a cette façon de jouer, mais après on n'est pas une équipe casse-pieds plus que ça, on est équipe dure, on tape fort, on plaque fort, on travaille notre système de jeu comme toutes les autres équipes. Après on a besoin de confiance en ce moment pour être plus performant offensivement, mais je trouve que Cas, c'est pas une équipe qui joue mal, c'est une équipe qui fait rail, quoi. On fait rail, on met les équipes dans le dur, on essaie de les faire déjouer, on essaie de garder notre système de jeu. Et voilà, après, on a notre identité, comme certaines équipes ont leur identité, par exemple, comme une équipe comme Clermont, comme une équipe comme Toulouse, parce qu'on dit jeu de Toulousain, les Toulousains ils jouent, nous on fait rail, et après, on voit ce qui se passe.
On verra ce qui se passe ce week-end. Bien joué. Ouais.
Avant de parler de l'actualité, justement, Thomas, est-ce que tu regrettes cette forme d'aseptisation du rugby professionnel? C'est vrai qu'il y a 20 ans, comme tu le dis, il y avait des identités très fortes dans les clubs. À Béziers, voilà, c'est pareil, c'était très dur. Il y avait Toulouse, il y avait le Racing, c'était un peu la bohème. On a l'impression qu'effectivement, ce rugby professionnel a un petit peu tout aseptisé. Il y a des modes où tout le monde s'adapte à cet effet de mode. Il y a eu les passes redoublées, il y a eu les leurs qui sont arrivés, tout le monde a essayé de s'y mettre un peu. On a le sentiment qu'à Castres, on cultive alors ça n'a rien de péjoratif, mais on cultive cette forme de terroir et cette identité très forte.
Oui, parce qu'en fait, on veut cultiver cette identité parce qu'on est à l'image un peu de notre ville, de notre population, où on n'est pas un grand club, on n'est pas le top de la jet set, on est vraiment le Castres olympique, des joueurs humbles, on n'a pas les plus gros salaires du top 14, on n'a pas les plus grands joueurs du top 14, on a de très très bons joueurs, on ne va pas se plaindre, on a une très belle équipe, mais on fait avec nos moyens, et après on s'adapte aussi à notre territoire, quoi. Ça veut dire que voilà, on fait par exemple le 100% région, on essaie de valoriser tout le Tarn et tout, quoi. Donc c'est important que les gens se retrouvent dans notre équipe, notre façon d'être, et on essaye surtout de dégager cette image d'équipe qui ne lâche rien, parce que c'est un peu les valeurs du club, quoi, de rien lâcher et essayer de concurrencer les plus grandes équipes.
Bah justement, en parlant de rien lâcher, on va parler un peu de l'actualité. Vous avez eu un début de saison, on va dire, poussif, difficile, et vous êtes petit à petit, chemin faisant, en train de vous rapprocher d'une éventuelle qualification. C'est quand même une drôle de saison, non, Thomas ?
Oui, c'est une drôle de saison, mais c'est le top 14, c'est terrible. Là, en plus, avec le Covid, sans supporters, c'est terrible. C'est long. Il y a des moments, à la 60e minute, tu dis, pouf, c'est ce que c'est dur. Tu prends des coups, tu t'entraînes toute une semaine et tu regardes autour de toi, tu entends les projecteurs bourdonner. C'est dur. Hein, c'est dur. Après, le début de saison, le match de Bordeaux, tu le perds à la dernière minute. Après, tu as le match de Brive que tu perds à la dernière minute. Et en fait, tu as des matchs comme ça où tu es vraiment limite que si tu les gagnes avec un peu de chance, tout en étant moyen, parce qu'il faut dire aussi, pas toujours être ultra performant, ultra fort, et ben aujourd'hui, ben tu serais dans le top 6. Donc voilà, ça veut dire que comme quoi on n'était pas loin, que à force de travail, et ben on s'en est rapproché, et que l'image qu'on monte depuis quelque temps, c'est vraiment la vraie image du Castres Olympique. Ça veut dire que on met l'équipe adverse sous pression, mais aussi on utilise bien les ballons de contre-attaque. Défensivement, on est plus en place. On est beaucoup plus intéressant parce que aujourd'hui le système de jeu est très clair et que le groupe vit très bien.
Est-ce que l'arrivée de Pierre-Henri Broncan n'a pas permis aussi d'avoir un second souffle pour le Castres Olympique? Tu l'as dit, il y a eu aussi l'éclosion de jeunes. Parce que j'ai cité un peu les anciens, mais voilà, vous faites partie des anciens. Il en faut, mais il faut des jeunes. Et on sait que voilà, pour qu'un groupe fonctionne bien, c'est de l'émulation entre la créativité des jeunes et l'expérience des anciens. C'est très philosophique ce que je raconte, mais je pense être dans le vrai. Mais est-ce que l'arrivée de Broncan aussi a permis ce second souffle?
Mais Pierre, franchement, il est très clair dans ce qu'il veut. Je pense qu'au niveau du management, il est très très bon. Je trouve juste sur ses paroles, sur sa façon de s'exprimer, sur sa vision du rugby. Aujourd'hui, on avait besoin d'une personne comme ça à la tête du club, et aussi l'arrivée de Dari. Dari fait un bien. Franchement, il est arrivé à Lyon, on gagne. Je veux dire, après. Il n'y a rien contre nos anciens entraîneurs ou managers, parce que c'était des très très bons managers. Après, c'est à l'image du groupe. Il en faut peu pour déverrouiller une équipe et la mettre à 100% de ses moyens. Donc pour l'instant, ce qui est vrai, c'est qu'on n'a rien gagné. On est plus performant, on est beaucoup mieux huilé, on va dire. Que ce soit Pierre-Henri Broncan ou Dari, aujourd'hui, je trouve gère très très bien l'équipe et c'est vrai qu'on est beaucoup plus performant. Donc ouais, leur vision du rugby est la bonne, je pense.
Pour ceux qui ne suivent pas le Castres Olympique, Dari, c'est David Dari-Carrère, hein, évidemment, ouais, voilà, qui a été champion du monde d'ailleurs avec l'équipe de France des moins de 20 il y a peu. Tu l'as souligné, Thomas, la conséquence, c'est le départ de Mauricio Reggiardo, qui était quand même, un enfant de Pierre-Yves Revol, un enfant du club, même s'il est quand même, il faut le rappeler, et son accent nous le rappelle à chaque fois, il est argentin. Mais comment tu as vécu, toi, ce départ? J'imagine que humainement, c'est quelqu'un qui est quand même plutôt, qui a de l'empathie pour ses joueurs, qui aime ses joueurs, mais qui a peut-être un management qui ne correspondait pas. Comment tu as vécu son départ?
Moi, Mauricio, je l'ai connu en 2014-2015 quand il en a joué le maintien. Donc, Mauricio, il est arrivé et c'est vrai qu'il a amené ce leadership à l'équipe et on a réussi à se maintenir. C'est quelqu'un vraiment qui, au sein du groupe, est vraiment très, très bien. C'est une très bonne personne, Mauricio. Je pense qu'il va faire du bien et un très bon travail à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, ben voilà, l'équipe était en difficulté sur les résultats. Il a quand même, lui, accepter de se mettre de côté pour pouvoir laisser les pleins pouvoirs à Pierre-Henri Broncan et à Dari pour que le club puisse se sortir de ces résultats négatifs. Donc, il a mis son ego de côté. Je crois qu'aujourd'hui, c'est très rare dans le rugby de laisser place à quelqu'un d'autre et de lui dire, écoute, bon, mais voilà, les résultats n'ont pas été là. Je te laisse la barre. Et maintenant, essaye de redresser le navire. Et je pense que Mauricio a été super bien. Et franchement, en partant actuellement à Aix-en-Provence et surtout en laissant sa place, je trouve que c'est tout à son honneur. Et que moi, c'est quelqu'un vraiment que j'ai apprécié au sein du club. Et que c'est quelqu'un, j'espère qu'il réussira par la suite.
On en avait parlé avec Yann Delegue il y a quelques semaines. Le métier de manager est tout aussi compliqué, voire peut-être un petit peu plus aussi psychologiquement que pour les joueurs. On va revenir juste aux sportifs deux secondes. Est-ce que tu y crois? Alors ma question, elle est un peu conne, Mais la plupart des questions sont faites par Arnaud Beurdelet.
Non, mais c'est une vraie question. Non,
en plus, c'est une vraie question. Mais c'est dur quand t'es joueur aussi d'entendre ce genre de questions. Et tu peux me répondre comme t'as répondu à ce journaliste. Ça me fait pas rigoler. Bien sûr que, en gros, vous croyez en la qualification encore, parce que vous avez quand même un emploi, j'allais dire un emploi du temps. Vous avez encore quelques déplacements assez importants. On y croit encore aujourd'hui la qualification.
Et puis 7 points de retard sur la 6e place. C'est pour ça que la question.
Je crois qu'on a 5 points. 5 points.
5 points, oui, pardon, c'est le Stade français qui est à 7 points. Ah, oui.
Non, mais là, t'inquiète pas, tu me prendras pas au jeu, là, la 6e place, je sais où elle est. Non. Honnêtement, tout est possible. Tout est possible. Voilà. Mais après, la saison, 6 matchs, je pense qu'il va falloir aller chercher des matchs à l'extérieur. Tout est possible, vraiment, que ce soit pour nous, pour Lyon, pour Toulon, même Bordeaux aujourd'hui, avec la défaite subie à Chamonix-Mas, peut-être marquer le pas. Après, on a une grosse réception de Toulouse, donc déjà on va se concentrer sur ça et on prendra match après match. Alors c'est vrai que ça c'est du classique du rugby, on prendra match après match, on verra.
Je m'attendais à mieux de ta part, après, merde.
Ouais.
je prends, vas-y.
J'ai failli me lever et partir. Non, mais c'est vrai que ça serait vraiment top de pouvoir accrocher la 6e place, ouais. vraiment, parce que je pense qu'on a les moyens. Et je pense qu'on peut, vraiment poser des problèmes à pas mal de monde, on va dire.
Alors justement, est-ce que finalement, elle ne te rappelle pas cette saison 2018 où personne ne vous a vu venir? Vous terminez 6e, je crois, de la phase qualificative cette année-là. Vous tapez Toulouse, qui est 3e de la saison régulière. Vous tapez le Racing, qui est 2e de la saison régulière. Et vous terminez en finale contre Montpellier, qui avait fini 1er de la saison régulière. C'était vraiment un bel exploit. Et à part Raph Poulain, dont évidemment, moi, je me souviens pas de son pronostic à l'époque, qui visiblement prétend vous avoir.
Ah, mais j'ai les dossiers.
Vous avoir vu venir.
C'est dans Poulain la flûte, je vais te ressortir la vidéo, tu verras.
D'accord. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas des similitudes avec cette saison-là?
Ouais, un petit peu, peut-être. On verra. Je te dirai ça à la dernière journée. Parce qu'à la dernière journée, on reçoit Toulon. Alors bon, c'est possible. C'est possible. Parce que là, on recevait Oyonnax à la dernière journée pour la qualification. Je me rappelle très bien où Oyonnax disait qu'il voulait venir jouer, se maintenir chez nous, et nous, on voulait se qualifier de l'autre côté. Donc, Je pense que ça se ressemble un petit peu, mais bon, après, maintenant, chaque histoire est différente, donc on verra bien la dernière journée de Top 14.
Est-ce que tu crois que l'exploit est encore faisable? Est-ce que c'était un bel exploit? Enfin, c'est un petit peu à l'image du titre de 2015 avec le Stade français qui va gagner à 14 contre 15. C'est Sergio Parissé qui chope un carton rouge au Racing. Et là, il se transcende comme vous l'avez fait en 2018 avec cette victoire contre Toulouse qui vous permet. Mais ça s'est sûrement passé avant. Bien sûr que l'histoire ne s'écrivait pas là, mais il y a des déclics. Est-ce que l'histoire encore avec toutes ces armadas dont tu as parlé justement, alors pas Montpellier, j'avais cité Montpellier, mais c'est les seuls qui ne sont pas dedans d'ailleurs. Mais voilà, le Racing, La Rochelle, c'est quand même très armé. Est-ce qu'il y a encore possibilité pour CAS de créer l'exploit? Encore une question conne, mais je le pense. C'est...
Moi,
je
n'y allais pas de moi.
Moi, j'y crois vraiment. Ouais. J'y crois vraiment parce que tu ne gagnes pas un titre. C'est pas anodin quand tu gagnes un titre. Il y a toute une histoire. Il y a une force dans le groupe. Il y a toutes les planètes sont alignées. Moi, je me rappelle quand on est champion de France en 2018, mais ce qui fait qu'on va gagner le barrage, c'est qu'on les a gagnés en phase aller chez eux en plein mois de décembre. Et on s'est dit, ouais, on va le faire. On va aller les gagner chez eux, c'est clair. Et ça, c'est sorti direct après le match. On savait qu'on allait gagner à Toulouse. C'était une certitude. On n'avait aucun doute. Et après, en fait, on ne s'est pas posé spécialement de questions. Et franchement, je pense qu'avec avec l'énergie que peut mettre l'équipe, je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment encore, on a de la marge de progression, vraiment une grosse marge de progression, parce qu'aujourd'hui, on est bien, mais je pense qu'on peut être encore beaucoup mieux. Donc, je pense que c'est possible. Mais après, les matchs, ils vont être raides. Hein. On a encore Lyon, Toulouse et Toulon à la maison, avec des gros déplacements aussi à l'extérieur, Bayonne, Brive et Bordeaux. Donc, ça va pas être facile non plus.
Ça va piquer. Alors justement, Thomas, sans te faire offense, t'es un vieux routard du top 14. On voit aujourd'hui un rugby qui évolue avec des clubs qui empilent les stars dans leur effectif. Quel regard tu portes, toi, sur l'évolution de ce rugby professionnel? Est-ce que tu te sens… Je vais te donner notre regard. On en a parlé avec Raphaël avant l'émission. On a l'impression que… On va pas dire que t'es un extraterrestre, mais que t'es un peu à la marge. que t'as vachement de recul justement sur cette évolution du rugby professionnel. Est-ce que tu te sens aujourd'hui pleinement en accord avec ce que ce sport est devenu?
Bon, je sais pas trop. Je sais pas trop. Non, je pense que voilà, on a la chance de bien gagner nos vies actuellement. Ça, c'est une certitude. Je dis pas qu'on la gagne non plus, qu'on gagne des 100 et des 1000, mais je pense que financièrement, c'est hyper intéressant. Après, rugbystiquement, ben voilà, on défend à fond. De temps en temps, les matchs sont un peu débridés et tu prends un peu de plaisir. Mais actuellement, le rugby sans public, c'est pas très, très intéressant actuellement, je trouve, pour ma part. Après, c'est quand même... nous, on a quand même un rugby de terroir, comme on le disait à Cas. Donc, tout ce qu'on fait pour le club, moi je le fais avec le cœur, tu vois, c'est important. Je prends du plaisir parce que le groupe est bien, je prends du plaisir parce que le club est bien. Donc, c'est ça le plus important. Après, je serai dans un club un peu plus armada, comme j'ai pu être à Montpellier ou maintenant le développement de La Rochelle, Clermont. Je ne sais pas si aujourd'hui je prendrai autant de plaisir que j'en prends un casse.
On sent que tu es très attaché aux histoires d'hommes, non?
Ouais, mais c'est surtout que je joue avec des mecs, franchement, qui me ressemblent. Ça veut dire, comme je te dis, Julien Dumora, on va à la chasse ensemble, on est très nature. Le Tarn est très joli, c'est vraiment cool de vivre dans une ville comme Castres. Donc, je suis dans un petit village à côté. Hein. Après, même mes partenaires comme Rory Cocotte, on peut en parler, hein, qui est un mec, tu as l'impression qu'il est nonchalant dans la vie, mais après, dans l'équipe, c'est un bon garçon, c'est humainement, c'est un super mec. C'est pour ça que quand je disais, ils en avaient après Rory, parce que je trouve qu'en dehors du rugby, Rory, c'est quelqu'un de super bien. C'est un bon garçon, c'est quelqu'un qui est attachant, agréable. Donc, l'image du joueur de rugby ne reflète pas l'image de la personne qu'il est dans la vie. Voilà. C'est ça qui est important.
C'est le fameux. Ça peut paraître très philosophique, mais c'est l'être et le paraître entre ce que tu dégages et ce que tu es à l'intérieur aussi. Et voilà, dans l'intimité, tu n'es pas du tout le même de ce que tu représentes. Moi-même, je suis un connard avec ma femme et j'ai l'impression d'être un bon mec face à vous. C'est ça, les gars. Oui, bien entendu. Et moi, j'ai une question parce que tu parlais du Stade français. Est-ce que c'est le fait d'être campagnard, et c'est pas du tout péjoratif, je le suis aussi, hein, je viens d'un petit village de 700 habitants, donc est-ce que c'est le fait d'être campagnard, d'avoir vécu aussi dans une ferme qui t'a fait choisir plus Montpellier que Paris? Ça m'intrigue.
Clairement. J'avais peur d'être en ville à Paris, ouais. J'avais vraiment peur de ne pas être...
De toi-même ou de la ville? De toi-même dans Paris ou des excès ou...
Non, pas des excès, si j'avais peur d'être en appartement, de me sentir enfermé, de pas avoir ce côté nature qui me permet de m'évader et d'être vraiment bien chez moi. Moi, je veux dire, je suis à Castres, j'ai une petite maison, une belle maison de plus de 100 mètres carrés avec du jardin, je crois que j'ai 2000 mètres carrés. À Paris, j'aurais jamais ça, c'était pas possible. Et moi, j'ai besoin d'être dehors, peinard, pas un bruit, tranquille, voilà. De ne pas entendre spécialement le bruit des voitures et être enfermé dans un appartement. Voilà. Et clairement pour ça que je ne suis pas allé à Paris.
J'ai une dernière question. Est-ce que tu as revu ce journaliste? Est-ce que non. Tu as revu ce journaliste? Tu ne l'as pas revu?
Non, et pourtant j'ai fait la conférence de presse d'après-match à Toulouse. Quand on a fait égalité, je me disais, écoute, je vais y aller tranquillement avec le sourire parce qu'on a fait égalité, donc c'était plutôt cool pour nous. Et en fait, non, il n'y était pas. Non, je crois que non.
Non,
il n'avait pas envie de me revoir.
Une dernière chose, quand même, juste avant de te remercier, j'aimerais que tu me fasses, parce que tu es très bon acteur, tu l'as prouvé, une fois de plus, tu re-signes, on le sait, pour 2 ans à Castres, et félicitations pour ça. Concentre-toi bien, j'aimerais juste avoir un... Ça me fait pas rigoler.
Ça me fait pas rigoler. On a du caractère à
Castres. Je l'avais oublié, celle-là, très très bon. Oh, bordel.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Pour le coup, la question avait été plutôt mal formulée et...
C'était clairement du foutage de gueule.
Ouais. Alors moi, je le connaissais pas, mais c'est vrai que je me suis longuement posé la question. Je pense qu'il s'était un peu, je pense qu'il s'est mélangé les pinceaux au départ, et qu'il a essayé de se raccrocher aux branches et que la branche était un peu pourrie. Quoi.
Ouais.
Mais bon,
ça arrive.
On est tous passés par là. Hein, je vous rassure, ouais, on a tous. Malheureusement, c'est.
Je lui en tiens,
merci beaucoup.
Ouais. Ouais.
Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la fin de saison? Est-ce que alors, je vais pas. Allez, une dernière question conne comme ça. À choisir entre un titre et un retour du public.
Un titre. Vraiment un titre, ouais. Un titre parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais après, sans le public, je ne sais pas si le goût sera le même, hein, franchement. Donc, le titre, mais après, le retour du public aussi. Donc, franchement, les deux.
Voilà, les deux, mon capitaine. Ouais, merci beaucoup, Thomas, en tout cas, pour d'avoir déjà accepté l'invitation. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, c'était un vrai plaisir. Je pense qu'Arnaud l'a ressenti aussi.
Ouais, c'est chouette. Et moi, je trouve ça bien parce que c'est vrai qu'on se tourne rarement vers les joueurs du CO parce que médiatiquement, effectivement, c'est une terre vers laquelle les journalistes tournent assez peu. Et avec Raph, on avait cette envie d'aller justement vers le castre olympique. Et quand la question s'est posée, à travers ce que tu dégages et sur le terrain et en dehors, ce franc-parler qui devient de plus en plus rare aujourd'hui dans ce milieu de plus en plus aseptisé. Voilà, c'est, ton nom est sorti, non pas du chapeau, mais sorti spontanément de la bouche de Raph. Et c'est un vrai plaisir. On a passé un très bon moment et j'espère que ceux qui vont nous écouter passeront également un bon moment.
Et je te demande merci.
Une dernière mission pour toi. Prépare psychologiquement Rory Cocotte parce que ce sera le prochain invité avant la fin de la saison. Alors si tu me le travailles, tu l'invites comme ça. Tu sais, non, mais l'avantage, et moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est de voir l'homme derrière le joueur. Tu l'as expliqué, moi le mec sur le terrain, je trouve que c'est une peste, quoi. C'est un boucan et il en faut un, c'est le choléra le bordel. Mais en dehors, justement, de connaître l'homme, ça permettra aux gens justement de mettre des mots sur l'image qu'ils ont de Rory Cocotte. Donc à toi de jouer pour me le faire venir et qu'il accepte le moment venu. Ok?
Ouais, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très, très, très compliqué. Ouais, vas-y.
Ah, je disais, Raph sait de quoi il parle, hein, parce qu'il a quand même joué avec Agustín Pichot, qui, en termes de pénibilité, était pas mal non plus.
Comme quoi, c'est les meilleurs.
C'est pas faux.
Souvent, très souvent, très souvent.
Thomas, merci beaucoup, merci encore.
Merci à vous.
Ouais, bonne fin de saison à toi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Arnaud, merci beaucoup. Je remercie aussi Sébastien qui est derrière à la régie. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end rugby. Et voilà, pour conclure, c'est toujours la classique. Éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre. La vie, elle est belle. Allez, ciao.
Ciao.